C'est avec joie, je vais vous introduire Léa. Léa, déjà, est un petit peu nerveuse. Elle shake un petit peu, mais elle a vécu quand même quelque chose de spécial hier. Avec la température, elle a fait un 360 dans la route. Alors, elle a su c'était quoi un petit peu le stress qu'elle a eu, là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose d'autre. Elle a vraiment un beau message à nous partager, ce que Dieu a fait dans sa vie. Léa?
OK. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Léa Hamel, j'ai 20 ans et je suis la cinquième d'une famille de 8 enfants. Aujourd'hui, je suis devant vous pour obéir à Dieu en me faisant baptiser devant Dieu et devant vous. J'ai grandi dans une famille chrétienne où la parole de Dieu m'a été enseignée dès mon jeune âge. Ma mère et mon père, prenaient le temps de nous raconter les histoires et de nous faire apprendre les versets de la Bible. Chaque dimanche, j'allais à l'église et puis aussi à l'école du dimanche où il fallait, apprendre les versets par cœur et où il y avait des enseignements sur Dieu et Jésus. Puis j'étais toujours bonne à apprendre les versets par cœur parce que lorsque j'étais plus jeune, ma mère nous faisait l'école à la maison et chaque jour, on essayait d'apprendre les versets de mes frères et les miens pour nos cours d'école du dimanche. Je les ai toujours appris par cœur, mais je comprenais pas l'importance de ces versets dans ma vie. Lorsque j'avais environ 7 ans, j'étais dans la classe de Madame Bascounian et elle a fait un enseignement sur l'amour de Jésus pour nous et ce qu'il a fait sur la croix. Et ça m'a beaucoup touchée et c'est ce jour-là que j'ai décidé d'accepter Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Cette année-là, j'étais à la vraie école. Et j'ai témoigné de ma foi à mes amis de ma classe. Et déjà là, j'ai vu que c'était pas toujours bien accepté par tout le monde. En effet, la mère d'une de mes amies n'avait pas aimé que je parle de Dieu à sa fille et lui avait dit que je devais plus lui en parler. Donc, j'ai grandi, je suis allée à l'école secondaire, où bien que mes parents prenaient un temps biblique chaque matin avec mes frères et moi, je pouvais ressentir une influence sur ma façon d'agir et de penser pour que je puisse fitter dans la gang. Je sais qu'avec les prières de ma maman et mon papa, Dieu m'a gardée de bien des problèmes. Et bien que parfois je me sois éloignée de Dieu, le Saint-Esprit a toujours été là pour moi. J'ai eu une repentance pour ce que je faisais qui m'amenait à pécher envers Dieu. Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur, quand j'étais plus jeune, la notion qu'il soit le Seigneur de ma vie n'était pas très développée. Et au fur et à mesure que je grandis, j'ai compris l'importance de me raccrocher à Christ, mais aussi de vivre une relation avec Dieu. Ce qui est bien dans une relation avec Dieu, c'est de comprendre que peu importe ce qu'on est, Dieu nous aime inconditionnellement. Il sera toujours là pour moi. Et cela n'est pas facile à trouver dans n'importe quelle relation. Mon parcours scolaire a toujours été une adaptation où j'ai dû rencontrer de nouvelles personnes et faire face à des difficultés. Dieu a mis sur mon chemin des amis incroyables et il a su me démontrer le besoin que j'ai de l'avoir à mes côtés. J'ai été bénie d'avoir des relations de confiance et surtout de voir la patience de Dieu à mon égard vis-à-vis mes difficultés ayant la crainte d'être rejetée par tout le monde. Mais plus j'avance dans ma relation avec lui, plus je vois les bienfaits qu'il permet dans ma vie et dans celle des personnes qui m'entourent. Monsieur Saint-Pierre, il a dit que j'ai failli avoir un accident. Je peux vous dire qu'il m'a protégée, puis je le vois vraiment dans ma vie et dans les réponses des prières de ma famille et de ceux qui m'entourent. J'ai rencontré il y a environ 4 ans une personne. Jean-Philippe et moi avons développé une amitié qui s'est avérée plus importante qu'une simple amitié. Et Dieu a permis que je rencontre Jean-Philippe et travaille mes problèmes avec des situations parfois éprouvantes et frustrantes. Mais je grandis de plus en plus spirituellement dans ma relation avec Dieu et Jean-Philippe m'encourage là-dedans, étant souvent un exemple de patience, d'écoute et de sagesse que Dieu utilise pour me démontrer ce que je dois travailler dans ma vie pour pouvoir me consacrer de plus en plus à Dieu. Je suis maintenant à l'université où mes croyances, comme plusieurs disent, sont sans cesse rejetées. Et avec l'aide de Dieu et sa patience, je me fortifie et je prends courage pour pouvoir prendre position pour lui. Mes péchés, ils sont toujours là. Avant d'accepter Jésus dans ma vie et après, j'ai toujours essayé de tout faire toute seule, de tout mettre sur mes épaules et de ne pas considérer mes besoins. Je sais que j'ai besoin de l'aide de Dieu et que je peux tout lui remettre dans la prière. Comme il est dit dans Matthieu 11, 28 à 30, que ça dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Il y a un an, j'ai commencé à ressentir l'importance du baptême et un désir de suivre le cours de baptême. Bien que j'ai toujours su que pour se faire baptiser, on ne devait pas être parfait, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je sois meilleure que ce que j'étais, que je n'étais pas assez bonne. J'avais l'impression que ma vie n'était pas aussi excitante que les autres qui donnaient leur témoignage et que j'étais trop jeune. J'avais peur de me consacrer à Dieu, croyant des faussetés qui m'empêchaient de faire cet acte d'obéissance en me donnant des raisons pour ne pas suivre le cours. Aujourd'hui, je suis convaincue que Dieu a dirigé M. Saint-Pierre pour qu'il vienne me voir, car il fallait ce signe de Dieu pour me permettre de réaliser que je devais me faire baptiser. J'apprends peu à peu comment me décharger de mes fardeaux et de ceux que je n'ai pas à prendre, car il est dit dans Philippiens 4, 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui, pour obéir au commandement de Dieu et de montrer mon amour pour lui et ce qu'il a fait dans ma vie. Merci beaucoup.
C'est bon. Maintenant, on attend Christian. Christian Carrière va aussi donner son témoignage. Lui aussi a dû prendre une décision et mettre des choses en règle dans sa vie pour pouvoir suivre Christ. Et il va nous partager ce que Dieu a fait dans sa vie.
Quand même beaucoup de monde. Bon, je me présente, Christian Carrière, 21 ans. Avant de vous dire pourquoi que je suis ici, je vais juste faire un bref résumé de ma vie. Depuis que je suis né dans une famille chrétienne. J'ai toujours été à l'église. J'en voyais pas vraiment l'intérêt. Je comprenais ce que j'entendais sur Dieu, mais je trouvais ça comme un autre avant-midi à l'école, puis une perte de temps. J'ai accepté le Seigneur environ à la maternelle ou première année. Malgré que je n'aimais pas ça venir à l'église, je pense que j'avais quand même bien compris c'était quoi le message. Rendu au secondaire, ça a été beaucoup plus difficile. J'agissais comme la plupart du monde dans mon école. La seule différence, c'est que je ne sacrais pas, puis je trouvais que j'avais plus de conscience que certains de mes amis. À chaque samedi soir, j'allais à la jeunesse. C'était surtout parce que j'avais des amis que j'aimais, puis que j'aimais l'ambiance. Je croyais en Dieu aussi, mais je voyais pas comme qu'il pourrait agir dans ma vie. Je voyais agir, mais moi, j'étais pas prêt à agir. Le dimanche matin, quand j'allais à l'église, ou même le samedi soir, quand j'allais à la jeunesse, j'ai jamais vraiment écouté les prédications. J'avais toujours la tête ailleurs, en train de penser à n'importe quoi d'autre. Je trouvais ça beaucoup plus facile comme ça, parce que j'avais pas à réfléchir à la vie que j'avais. J'avais pas à me sentir mal ou à me forcer à changer. Mettons que je croyais en Dieu très passivement. Je me sentais pas mal d'aller à la jeunesse le samedi soir, puis d'après d'aller dans un party, puis de revenir le dimanche matin. Je me sentais bien là-dedans. Fin secondaire 5, j'ai eu une job de fin de semaine. qui a fait que pendant 2 ans, j'ai pas pu aller à l'église. Première année, j'allais seulement à la jeunesse, puis après 1 an, j'ai tout quitté. Beaucoup de choses et de personnes m'ont frustré à partir de ce moment-là. Beaucoup, c'était de ma faute, mais en tout cas, je voulais me rebeller contre tout et vivre ma vie comme je le voulais. Je voulais vivre tous les petits plaisirs du monde puis essayer de trouver mon bonheur là-dedans. Ça a marché pendant environ 4-5 mois, jusqu'à temps que la dure réalité me rattrape. J'ai comme frappé un mur. Un événement m'est arrivé en conséquence de ce que je prenais qui m'a laissé des quand même grosses séquelles psychologiques qui sont malheureusement pas encore parties complètement. Ça m'a fait réaliser à quel point que j'étais en train de m'enfoncer et que j'étais juste trop séquelle pour m'en rendre compte. Même si c'est le pire événement que j'ai reçu, que j'ai eu, après un certain temps, je me suis rendu compte que ça m'a vraiment aidé parce que sinon, je voyais pas où ce que ma vie pouvait aller puis je faisais juste continuer à être dans le chemin que j'avais. Il me fallait une claque d'en face pour que je tourne de bord. Bon, après cet événement-là, j'ai arrêté certaines niaiseries que je faisais, mais après, j'ai commencé à boire quand même régulièrement. Je me disais que c'était pour le fun, mais je me suis rendu compte que c'est surtout pour décrocher puis pas avoir à réfléchir le temps d'une soirée, là, puis oublier les problèmes que j'avais. Maintenant, la meilleure partie, quand je suis revenu. J'avais arrêté de travailler les fins de semaine. Depuis au moins 6 mois, je voulais vraiment revenir à l'église, juste que je me sentais mal. Je me sentais mal de revoir tout le monde. On dirait que j'étais comme pas prêt, même si je voulais vraiment. Vers avril 2009, je suis finalement revenu. Il me restait encore beaucoup d'habitudes et de péchés à délaisser. Ça m'a pris environ une autre année à vraiment comprendre que si je décidais de suivre Christ, je ne pouvais pas rester avec un pied dans le monde. L'été passé, je l'ai passé avec beaucoup de monde de l'église. J'étais beaucoup plus impliqué, puis je me suis rendu compte que... J'étais pas tout seul là-dedans. Que c'est pas parce que, oui, je fais des péchés, mais tout le monde en fait, puis j'ai pas... Faut que je me sente mal, mais pas... Comment dire? Faut pas que je laisse ça m'abattre, puis que faut que je sois capable de me relever avec toutes les épreuves que j'ai. J'ai essayé de me battre tout seul, de chercher mon propre bonheur dans les choses du monde, et de combler le vide que j'avais avec toutes sortes de choses, mais ça a été sans succès. Je n'ai pas choisi ce chemin parce qu'il a l'air d'être le fun ou parce que je vais être populaire, au contraire. Je l'ai choisi parce que c'est le seul qui mène à Dieu. Je vais vous lire un passage qui m'a beaucoup touché. C'est Matthieu 6, 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. À chaque jour suffit sa peine. Ce passage a été une réponse aux conséquences que j'ai vécues et vraiment une réponse à mes prières. Je suis ici pour vous montrer ce que ma vie est supposée ressembler après aujourd'hui. Je pense que ça a changé depuis, pas aujourd'hui, mais depuis le moment que j'ai pris la décision de venir me faire baptiser. Je voulais pas, un peu comme Léa, je me disais, j'ai trop de choses à changer, je ne suis pas assez parfait pour ça. Puis aussi la gêne d'être en avant, mais là, je suis correct. Fait que du monde m'a poussé pendant tout l'été à te faire baptiser. Puis Je voulais pas, mais un moment donné, j'ai pris la décision quand, après tout mon été avec des gens chrétiens, puis à me rendre compte que seul, je peux rien faire, puis tous les petits bonheurs que je recherche, mais ça mène à rien. Merci.
Les placeurs à s'avancer pour les offrandes.
On va prendre quelques minutes. Je veux vous partager un petit peu, expliquer un peu ce qui va se passer ici avec les baptêmes. La majorité d'entre vous, la vaste majorité, vous êtes habitués, vous avez déjà vu ça. Maintenant, il y a des enfants aussi qui restent. C'est peut-être le premier baptême, c'est peut-être la première fois que ça va être expliqué. Pour d'autres, vous avez déjà vu des baptêmes dans une église catholique, donc on baptise des enfants. Et c'est pas ça que vous allez voir. On a comme une espèce de baignoire, puis pff, ils vont être plongés là-dedans. Puis, ce que je voudrais faire, c'est expliquer culturellement c'est quoi cette pratique-là. Et puis, essayer d'expliquer aussi pourquoi est-ce que des gens peuvent comme assez triper sur Jésus pour avoir le goût de s'identifier publiquement à Jésus-Christ. Il faut réaliser à quel point c'est contre-culturel comme geste à poser. La majorité ici, on est une gang de chrétiens. Fait que c'est comme, on est tous les partisans ensemble. Là. On va tous être là, yeah, c'est bon. Mais je veux dire, c'est pas la réalité pour chacun d'entre nous lorsqu'on retourne au travail pendant la semaine. Qu'est-ce que c'est sur le plan culturel? Parce que il faut savoir que le baptême, on appelle ça un baptême par immersion, d'accord? Les gens vont être comme immergés dans l'eau. On les tient là 3 minutes. Quand ils arrêtent de bouger, on les lâche, tu sais. S'ils se réveillent, on crie au miracle. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça qui va se passer. Ça dure juste une seconde, d'accord? C'est juste ça. Maintenant, c'est comme ça que les chrétiens font ça depuis des milliers d'années. D'accord? Ça, c'est, si vous lisez la Bible, n'importe quelle Bible, vous lisez la Bible, vous allez voir, c'est comme ça que ça se passait. Jésus lui-même s'est fait baptiser, il a été comme plongé dans l'eau parce qu'il y a un symbole qui est associé à ça. Alors, la version baptême par immersion, c'est pas juste parce qu'on est bizarre, c'est sûr qu'on est bizarre, je sais, mais c'est pas juste pour ça. Culturellement, les chrétiens font ça depuis toujours, c'est comme ça que ça se passe. Et est-ce que vous êtes peut-être plus habitué de voir le baptême des bébés? Il y a un élément du symbole qui est le baptême qui est vraiment absent, qui est manqué, parce qu'il y a une idée qui est associée avec l'immersion, je vais en parler tout à l'heure. On vit à une époque postmoderne, on est au Québec, la culture, la tradition chrétienne n'est plus là. Le Québec est une des sociétés qui s'est transformée, une des plus rapides dans le monde, d'accord? Et à travers la Révolution tranquille, on a perdu certaines racines, qui fait qu'il y a des choses qui, tu vas aller n'importe où, les gens peuvent les comprendre, t'es ici, puis tu dis, c'est quoi cette affaire-là? Jésus de Montréal, oui, j'ai vu ce film-là. Mais vous voyez, il y a des racines qui ne sont pas là et donc il y a des choses qu'on ne peut pas saisir. C'est millénaire, cette pratique-là. C'est quelque chose qui est aussi vieux que le christianisme. Comme je le disais, Jésus lui-même l'a fait. Et pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? On se fait baptiser pour s'identifier. C'est pour ça qu'en discutant avec Oscar, on a décidé de prendre quelque chose avec lequel les Québécois, on est capable de s'identifier. Bien, c'est une identification qu'on fait avec ce que Jésus-Christ a fait, a vécu lui-même. Et donc, on est en train de s'identifier à quelque chose que Jésus a fait. L'histoire nous raconte à travers les Écritures, à travers la Bible, que Jésus, un Juif, a vécu il y a 2000 ans, et puis que ce personnage-là, ce personnage historique-là, a été arrêté, et puis il a été crucifié. D'accord? Il y a pas grand monde qui vont débattre ça actuellement sur la terre. La majorité des gens reconnaissent qu'il y a un Juif qui s'appelait Jésus qui a été crucifié. Maintenant, nous croyons, les chrétiens, que ce moment-là qui s'est passé dans son histoire, c'était un acte volontaire qu'il faisait. Si vous preniez le temps de lire les évangiles, de lire la Bible, vous avez sûrement quelque chose qui traîne chez vous, vous pouvez en trouver une sur le web, vous pouvez nous en demander. Si vous preniez le temps de lire ça, vous verriez que les apôtres et Jésus lui-même nous racontent que c'est un acte volontaire qu'il est en train de faire. Jésus s'est pas retrouvé comme mal pris à Jérusalem À ce moment-là, Israël était sous domination romaine. Et donc, Jésus ne s'est pas retrouvé mal pris, puis il s'est fait arrêter, puis bof, on l'a crucifié. Non, il y avait un dessein, il y avait un projet derrière ça. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Et Jésus s'est donc livré lui-même, volontairement. Et nous croyons, les chrétiens, que Jésus s'est livré volontairement pour être crucifié, qu'il est mort sur cette croix, qu'on l'a placé dans un tombeau, et qu'ensuite il est ressuscité des morts le troisième jour. Et généralement, lorsqu'on dit le mot « ressuscité », il y a des gens qui décrochent, d'accord? Depuis toujours, c'est comme ça. Quand les apôtres annonçaient le message de la bonne nouvelle, dans notre jargon à nous, en Jésus-Christ, du salut en Jésus-Christ, quand tu disais le mot « résurrection », il y a du monde qui décrochait. C'était comme ça à l'époque, c'est comme ça encore aujourd'hui, parce que bon, qu'un gars meurt sur une croix, tu sais, je veux dire, c'est là ou dans une chambre d'hôpital, tu meurs à quelque part un jour. Mais ressuscité, par exemple, oh, OK, là, c'est quelque chose. C'est normal. Peut-être que vous ne croyez pas à ça et peut-être que je vous perds à ce moment-ci. Vous décrochez. Écoutez quand même l'explication, parce qu'évidemment, nous, on croit en Dieu. Comme des millions de chrétiens sur la terre, on croit qu'il y a un Dieu qui existe. On croit que l'être humain est plus que de la matière. Donc, on croit aussi que chaque être humain a une âme et que notre histoire, le sens de notre vie a une plus grande portée que 60, 70 ou 80 ans. Nous croyons que l'être humain a été créé, il a une âme et il a une destinée éternelle. J'ai la ferme conviction, moi, dans mon cœur, que j'ai une âme, qu'il y a quelque chose qui se passe après la mort. Bon, ça ce n'est pas exceptionnel. Ça peut sonner exceptionnel au Québec. Sur la Terre actuellement, la très, 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 très grande majorité des êtres humains croient ça, chrétiens ou non, d'accord? Toutes religions confondues. Il n'y a que cette société éclairée nord-américaine et postmoderne qui voit les choses peut-être un petit peu différemment. Mais vous comprenez, on n'est pas les seuls weirds sur la Terre. Il y en a d'autres comme nous autres. Et probablement que vous-même, chrétien ou non, vous croyez aussi en Dieu. Vous croyez qu'il y a un Dieu qui est là quelque part. Alors nous, comme chrétiens, ce que nous lisons dans les Écritures, dans la Bible, et ce que nous croyons, c'est que nous avons une vie qui se poursuit après la mort et qu'il y a un Créateur qui est là. Et nous croyons que ce que Jésus a fait à ce moment-là, lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem intentionnellement pour être volontairement crucifié, nous croyons que c'est un sacrifice qu'il a fait. Je vais juste vous lire un extrait d'un verset dans Galates 2, verset 20. La deuxième partie du verset 20, voici ce que l'apôtre Paul, d'accord, a écrit il y a de cela des milliers d'années. Paul a écrit « Je vis dans la foi au Fils de Dieu », en parlant de Jésus, ce Juif, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et donc, tous les chrétiens du monde croient que la crucifixion, l'arrestation, la crucifixion de Jésus, c'était un acte volontaire de sa part. Que vous le croyez ou non, c'est ce qu'on croit. Et nous croyons non seulement qu'il a été crucifié, qu'il est mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité. Et que cet acte-là était un sacrifice que Jésus venait offrir afin que tous les hommes qu'il désire puissent être réconciliés avec Dieu. Tout à l'heure, Christian, puis Léa, on dit des mots étranges comme le mot péché. Puis chaque fois qu'on a des baptêmes, moi j'écoute les témoignages en me disant, OK, comment les gens qui ne lisent jamais la Bible vont décoder cette affaire-là? Puis là, j'écoute le témoignage, puis je dis, oh, ça c'est weird, oh, ça c'est bizarre. OK, puis moi je lis la Bible tous les jours, tu sais, fait que je sais de quoi il parle, puis j'ai vécu cette expérience-là personnelle de conversion au christianisme. Tout à l'heure, ils ont parlé de péché. Le péché, pour le ramener à l'expérience de tous les hommes, c'est, entre autres, ce que nous vivons dans notre conscience lorsque nous savons que nous avons fait quelque chose de mal. Il y a quelque temps, je parlais avec un ami qui n'est pas chrétien, puis il est venu me voir, puis il est en train de traverser un moment difficile dans sa vie, une séparation, tout ça, et puis puis on jasait ensemble, puis il ne voit pas toutes les choses comme moi, d'accord? Mais il y avait besoin d'en parler. On en parlait ensemble. Et il était un moment où sa blonde avait décidé que c'était fini. Puis elle voulait qu'il quitte. Puis en rétrospective, il était en train d'analyser la relation de couple qu'ils avaient eue. Et il vivait de la culpabilité parce que il savait en lui-même qu'il avait négligé cette relation-là. Et que ce qui était en train de se passer dans sa vie est en train de récolter les fruits d'une relation négligée, d'un amour dont il n'a pas pris soin, de différentes manières, tout ça. Ben voyez-vous, à ce moment-là, il est en train de me parler de ses péchés. Et, chrétien ou non, on a tous une conscience. Et ça, c'est un indice. Lorsque vous entendez des chrétiens parler de péché, là, on vous parle de ces choses que nous portons en nous-mêmes, qui fait que nous sommes mal avec nous-mêmes, mal avec les gens avec qui on voudrait être vrai, et si on croit en Dieu, mal avec Dieu aussi. C'est une piste que je vous donne, c'est plus vaste que ça, il faudrait lire ensemble les Écritures pour saisir ce que c'est le péché, mais voyez-vous, ce sont toutes ces... Quand on dit que là où il y a de l'hommerie, bien souvent l'hommerie, c'est le péché. C'est toutes ces mensonges, ces fourberies, ces trahisons, ces actes purement égoïstes qu'on peut poser, ces violences même qu'on va avoir, soit dans le cœur, soit en action. Et nous croyons, comme chrétiens, que Jésus-Christ est venu pour s'offrir en sacrifice afin que tous les hommes qui placeraient leur foi dans son sacrifice puissent faire la paix avec Dieu et faire la paix avec eux-mêmes, avoir bonne conscience. Nous avons tous dans notre histoire des choses que nous ne pourrons jamais effacer. Vous savez, il y a des actes qu'on commet, puis des fois on va passer notre vie à essayer de réparer ces choses-là. Il y a des choses que je ne pourrai jamais effacer, je ne pourrai pas les enlever. Et j'ai deux options, hein. Je peux regarder tous les hommes et dire, ben dans le fond, on est tous pareils, puis on va juste comme tourner la page. Mais voici ce que nous croyons. Nous croyons que nous avons une âme, que Dieu existe, qu'il a envoyé son Fils, qui s'appelle Jésus-Christ, qu'il est venu sur la terre et qu'il s'est offert en sacrifice volontairement sur cette croix, afin que toute personne qui va croire dans ce sacrifice puisse être réconcilié avec Dieu, pardonné de ses propres péchés. Si à ce point-ci, vous ne croyez pas dans l'existence de Dieu, ça peut sonner très étrange ce que je vous dis. Mais si vous avez cette conviction profonde que Dieu existe, si votre conscience est quelque chose de difficile à porter, si vous avez de ces secrets qui... Vous voudriez jamais que ce soit révélé, jamais que ce soit dévoilé. Vous pouvez comprendre la pertinence et l'impact que ça peut avoir dans la vie d'un individu de savoir qu'il peut être pardonné pour tout ce qui lui donne mauvaise conscience. Ainsi, nous croyons que lorsque Jésus-Christ a été crucifié, lorsqu'il s'est livré, c'est un sacrifice qu'il a offert. Il a été mis dans le tombeau. Et lorsqu'il est ressuscité des morts, Dieu a agréé son sacrifice. C'est ça qu'on croit. Et on croit que tout homme qui place sa foi dans ce sacrifice, qui décide de porter le nom de Jésus-Christ tatoué sur le cœur, tout homme qui place sa foi en Jésus-Christ peut trouver la paix avec Dieu, peut être réconcilié avec Dieu, réconcilié avec lui-même, sachant que Dieu l'a pardonné, et que Dieu ne lui tient plus rigueur, et qu'il entre dans une nouvelle vie. Ceux qui se font baptiser sont en train de s'identifier avec la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est pour ça qu'on le fait comme ça par immersion. Parce que c'est un symbole, simplement, qui est là pour illustrer une expérience personnelle que ces gens-là ont vécue avec Dieu. Ils se sont identifiés avec la mort, et donc c'est comme s'ils étaient mis en terre, et la résurrection de Jésus. Et c'est pour ça qu'on pratique ce symbole-là. Parce que ces gens-là sont en train de dire tout simplement publiquement, « Moi, je crois dans le sacrifice de Jésus. » Je vous lis un autre passage dans Galates 3, 27. Galates 3, 26, 27. C'est encore Paul qui parle. Et il dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Comme je vous dis, c'est un acte de foi. D'accord? C'est un acte de foi, là. Il y en a qui vont vivre une expérience spéciale, surnaturelle. Il y en a d'autres, comme moi, c'est mon expérience, je l'ai vécue dans le cœur. J'ai vécu une paix extraordinaire le jour où j'ai placé ma foi. J'ai vécu un repos que je cherchais depuis longtemps. Mais c'est un acte de foi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, par cette identification avec Jésus. Et au verset 27, il dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, baptisés dans son nom, vous avez revêtu Christ. » D'où l'image du chandail. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que vous allez voir, puis ce que vous voyez en étant ici, vous dites, c'est vraiment bizarre. C'est dans une église baptiste, les baptistes, une patente américaine, cette affaire-là. De grâce, mettez ça de côté, partez avec une Bible. C'est une pratique millénaire qui se fait. Le christianisme existe depuis 2000 ans et trouve ses racines en réalité depuis l'existence de l'homme lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Et peut-être que là où vous êtes rendu dans votre parcours, dans votre cheminement, cette conscience de Dieu commence déjà à faire sa place dans votre esprit, dans votre expérience. Peut-être que vous n'en parlez à personne. Peut-être qu'il y a des choses qui sont lourdes à porter dans votre histoire à vous. Moi, ce matin, à travers les témoignages, et c'est pour ça qu'on fait quelque chose comme demander à Christian qui dit, puis Léa qui dit, j'ai comme pas le goût d'aller en avant. Oui, mais on veut vous montrer c'est quoi, en 2011, au Québec, être chrétien. C'est un processus personnel. Vous remarquerez qu'on ne baptise pas de bébé ici. On ne baptise pas de bébé parce qu'on pense que la foi chrétienne, c'est une décision individuelle. Mes enfants sont dans la salle, ils sont en train de m'écouter, puis Esther et moi, mon épouse et moi, on leur lit la Bible, puis on leur enseigne les Écritures, tout ça, mais mes enfants vont prendre leur décision à eux parce qu'eux doivent décider s'ils veulent s'identifier avec Jésus-Christ. Alors que ce soit maintenant ou plus tard dans votre vie, si dans votre cœur, dans votre conscience, vous avez une conscience de Dieu qui commence à s'ouvrir, vous vivez cette réalité d'avoir de la difficulté à vivre avec votre propre conscience, avec votre propre histoire, moi je veux vous inviter juste à ouvrir votre esprit. Je sais qu'il y a toutes sortes de mouvements qui font peur. Je sais que ce n'est pas évident de croire en Dieu. Mais croyez-moi, ça change une vie. Ça change une vie et ça change une vie pour le meilleur. C'est vraiment une grâce de te retrouver un jour à genoux en train de prier et d'avoir la conviction profonde que tu es en paix avec Dieu, tu es en paix avec l'univers, tu es en paix avec toi-même et quelle que soit ton histoire, tu peux recommencer. Et quelles que seront tes chutes, tes égarements, tes bêtises, tes conneries à venir, Dieu va te regarder avec un regard favorable à cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Et ce matin, Léa et Christian sont en train de s'identifier à Jésus parce qu'ils désirent. Ils désirent qu'un jour, lorsqu'ils se présenteront devant Dieu, Jésus-Christ s'identifie à eux et qu'ils disent, « Mon sacrifice, je l'ai fait pour eux. » J'espère que ça peut vous éclairer un petit peu. On va terminer avec un mot de prière, puis ensuite on va assister au baptême. Et j'aimerais ça juste prier pour Haïti, si vous permettez. Je vais faire une petite digression, mais on va dire un mot de prière pour Haïti avec tout ce qui se passe là-bas. Père éternel, je n'ai pas toujours été convaincu de ton existence. Seigneur, j'ai longtemps douté, j'ai longtemps douté de cette foi que ma mère avait. Et j'ai cherché ailleurs, Seigneur, tu le sais. Mais à travers mon pèlerinage, tu as permis qu'on me parle de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, cet acte unique dans toute l'histoire de l'humanité. Et Père, j'ai trouvé la grâce. J'ai trouvé la grâce en Jésus-Christ et je t'en serai éternellement reconnaissant, Seigneur. Depuis ce jour, tu sais, je continue à être un pécheur, Seigneur. Je continue à avoir ma conscience qui m'accuse à tout moment d'égoïsme, de bêtises, d'hommeries que je peux faire. Mais chaque jour, je trouve la grâce auprès de toi, la paix auprès de toi, le repos auprès de toi. La conviction aussi que je ne suis pas seul sur cette terre et que lorsque personne ne me comprend, toi, tu comprends mon cœur, mes pensées, que tu es là dans le secret avec moi. Père, je t'en serai éternellement reconnaissant. J'aimerais, Seigneur, te prier pour Christian et pour Léa. Et c'est leur décision, c'est leur choix. Ça m'apporte beaucoup de joie de les voir le faire, Seigneur, mais je veux te demander maintenant de leur accorder ta grâce pour continuer à marcher avec toi. Pour prendre le temps de te rencontrer, pour toujours se rappeler chaque jour de ton sacrifice, Seigneur, et du fait qu'on est sauvé par grâce, on n'est pas sauvé sur la base de nos performances religieuses ou quoi que ce soit. Je prie de les fortifier dans leur foi, de leur accorder la joie aussi d'avoir des belles conversations autour d'eux, Seigneur. Je prie, Père, de bénir tous et chacun dans cette salle ce matin. Et ceux qui sont peut-être en train de cheminer, je te demande, Seigneur, de venir parler à leur cœur et que toi, l'être invisible, tu puisses devenir concret à leurs yeux, que tu puisses te révéler à eux à travers ta parole, tout spécialement, Seigneur, que tu puisses leur faire connaître ton œuvre à la croix pour eux. Père, on va avoir une pensée ce matin pour Haïti. Seigneur, il y a trop de souffrance là-bas. Il y a beaucoup trop de souffrance. Et Seigneur, je crois que tu es souverain. Je crois que tu peux faire la différence là-bas. Comme un ami haïtien me le disait, Seigneur, je te prie d'apporter de la paix premièrement là-bas avec les tensions actuelles, Seigneur. Ils n'ont pas besoin que des violences éclatent là-bas, Seigneur. Ils ont besoin de paix, d'ordre, d'organisation. Ils ont besoin que le reste de la terre ne les oublie pas. Je te demander de mettre ta main sur Haïti, Seigneur. On peut s'entendre dans les journaux, dans les prochains mois, les prochaines années, que les choses commencent à s'organiser là-bas et que les gens retrouvent une vie. Merci, Père, pour cette matinée. Merci pour le privilège de te connaître. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.